1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestant 2017, vivre la fraternité.
La liberté de conscience légalisée. Quand la révolution est en marche.
15 frimaires en deux, c'est-à-dire le 5 décembre 1793. Comme chaque jour, la foule a traversé les Tuileries pour se presser à la grille qui ouvre sur la place Louis XV, future place de la Concorde. De là, on peut voir plus facilement les condamnés paraître tour à tour pour disparaître aussitôt sur le lit de bois sur lequel va commencer pour eux l'éternel repos. Tête tranchée par la fameuse machine du docteur Guillotin. C'est là que Louis XVI est monté sur l'échafaud il y a presque un an déjà. Aujourd'hui, ils sont deux sur la charrette des condamnés. Et dans le public, on s'interroge.
Tiens, mais c'est pas le pasteur de Nîmes, celui-là ?
Si, Rabot Saint-Étienne qu'on l'appelle. Encore un député qui se fait raccourcir.
Il a même présidé l'Assemblée nationale à deux reprises. À la Constituante et à la Convention.
Et l'autre qui pleure à côté, c'est qui ?
Ah ben, je sais pas, moi. Il paraît que c'est celui qu'il a dénoncé au Comité de salut public.
Ah, et tu sais pourquoi ?
Ce ne sont pas ses convictions religieuses qu'on reproche au pasteur Jean-Paul Rabot, dit Rabot Saint-Étienne. C'est son engagement politique. À l'Assemblée nationale, il fait partie des Girondins, un de ceux qui n'ont pas voté la mort du roi. Un de ces bourgeois modérés qui se méfient beaucoup des émeutes du petit peuple de Paris. Liberté, légalité, propriété. Voilà le credo des Girondins. Du coup, ils sont devenus la bête noire des montagnards, ces ultras de la Révolution, qui vocifèrent depuis les plus hautes travées de l'Assemblée, la montagne, emmenés par Robespierre, Danton et Marat.
Les montagnards accusent ceux-ci de vouloir confisquer le pouvoir dans l'intérêt des riches, tandis que les Girondins soupçonnent ceux-là de vouloir instaurer une dictature. Et entre les deux, il y a la masse des députés de la plaine qui essayent tant bien que mal de suivre le sens du vent de l'histoire en train de se faire dans la terreur.
Le 2 juin 1793, la Commune de Paris a lancé une journée révolutionnaire pour exiger l'arrestation des chefs de la Gironde, accusés de mettre la patrie en danger. Plus de 80 000 sans-culottes se sont massés autour de l'Assemblée nationale, cernée par 150 canons. Un véritable coup d'État. Alors la Convention a déclaré les Girondins hors la loi. La plupart se sont enfuis pour essayer d'échapper à un procès expéditif devant le tribunal révolutionnaire.
Rabot Saint-Étienne, lui, a réussi à se cacher 35 rue du Faubourg Poissonnière. Mais aujourd'hui, sa cavale a brusquement pris fin, dénoncée par Fabre d'Églantine, l'écrivain poète qui est là avec lui sur la charrette, en train de sangloter.
Non, non, je ne veux pas mourir. Pas maintenant.
Ah bon ? Tu ne veux pas ? C'est donc pour essayer de sauver ta peau que tu m'as vendue ? Marmonne Rabot Saint-Étienne les dents serrées.
Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas mourir maintenant. Je n'ai même pas eu le temps de finir mon poème.
Des voix moqueuses fusent de la foule.
Ne t'inquiète donc pas, dans une semaine des vers, tu en auras fait des milliers.
Tiens, en voilà un de poème, tout spécialement pour toi. Il faut raccourcir les géants et rendre les petits plus grands, tous à la même hauteur, voilà le vrai bonheur.
Un grand éclat de rire secoue l'assistance ravie de la boutade et surtout du spectacle macabre qui s'annonce. Une grande fête de l'égalité, la grande revanche de tous les humiliés.
La guillotine a faim, il y a longtemps qu'elle jeûne.
Une à une, le pasteur monte les marches de l'échafaud, gorge nouée, la peur au ventre. Tout est allé si vite. D'un coup, sa mémoire s'affole et comme des flashs, il se remet à vivre les incroyables événements historiques auxquels il a été mêlé.
7 novembre 1787. Quelle joie extraordinaire pour tous les protestants de France quand Louis XVI avait, grâce à lui, signé l'édit de tolérance. Sur les conseils de Lafayette, le pasteur de Nîmes était monté à Paris pour réclamer un état civil pour les protestants. Et il avait gagné. Désormais, il ne serait plus obligé de passer par l'Église catholique pour enregistrer légalement les naissances, baptêmes, mariages et enterrements.
D'un coup, sa popularité avait été énorme. Et c'est tout naturellement qu'il avait été élu premier député de Beaucaire pour les États généraux de 1789. 20 juin 1789, quelle émotion incroyable quand, dans la salle du jeu de paume de Versailles, avec les autres députés du tiers-État, il avait prêté le fameux serment de ne pas se séparer jusqu'à ce que l'Assemblée constituante ait établi une constitution pour la France. Le peintre David avait immortalisé ce moment historique de fraternisation entre les ennemis d'hier dans un tableau grandiose où on le voit, lui, le pasteur Rabaud Saint-Étienne, serré dans ses bras le moine chartreux d'Angerle devant l'abbé Grégoire.
4 août 1789. Quel moment d'exaltation quand le vicomte de Noailles et le duc d'Aiguillon avaient proposé l'abolition des privilèges de la noblesse. En une nuit, on avait balayé l'ancien régime. Du passé, on avait fait table rase. Quand les députés avaient proclamé l'égalité de tous devant la loi, un monde nouveau était né devant lui.
Mais son plus grand souvenir, c'était sans aucun doute ce 24 août 1789. Alors qu'il montait à l'échafaud, il se revoyait, montant à la tribune. C'est là qu'était née sa réputation de très grand orateur, meilleur même que le grand Mirabeau selon certains. Son combat à lui, c'était la liberté de conscience, à ses yeux, mère de toutes les autres libertés.
La liberté, avait-il clamé, doit appartenir à tous les Français également et de la même manière. Tous y ont droit, ou personne ne l'a. Vos principes sont que la liberté de la pensée est un droit inaliénable et imprescriptible. Cette liberté, messieurs, est la plus sacrée de toutes. Elle échappe à l'empire des hommes. Elle se réfugie au fond de la conscience comme dans un sanctuaire inviolable où nul mortel n'a le droit de pénétrer. Messieurs, ce n'est pas la tolérance que je réclame, c'est la liberté. La liberté et l'égalité des droits, liberté de la religion, liberté de culte. Je ne vois aucune raison pour qu'une partie des citoyens dise à l'autre « Je serai libre, mais vous ne le serez pas. Vos droits et les nôtres sont inégaux. Nous sommes libres dans notre conscience, mais vous ne pouvez pas l'être dans la vôtre, parce que nous ne le voulons pas. »
De ce discours passionné qui avait tant marqué les esprits, est né l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
Le plus étonnant, c'est qu'au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, le même événement se produisait à la Chambre des représentants du Congrès américain. Le 21 août 1789, le père de la toute nouvelle constitution américaine, James Madison, montait à la tribune pour faire adopter la Déclaration des droits en s'inspirant de ce qui avait été fait en Virginie. Et depuis ce jour, le premier amendement proclame « Le Congrès ne fera aucune loi accordant une préférence à une religion ou en interdisant le libre exercice, restreignant la liberté d'expression, la liberté de la presse. »
En cette fin du mois d'août 1789, la liberté de conscience était enfin devenue un droit, reconnu pour tous. « Enfin, tant que tu gardes la tête sur les épaules », se disait Rabaud Saint-Étienne, en sentant la sienne coincée dans l'encoche, surpris lui-même par cette toute dernière pensée ironique. Juste le temps pour lui d'entendre Charles-Henri Sanson, maître exécuteur, dit le barbier national, actionner le levier qui libère la lame.
Ça me donne à penser. C'est quand même bon d'avoir le droit de vivre sans devoir s'excuser. Ce n'est pas la tolérance que je réclame, dit Rabeau Saint-Étienne. C'est la liberté. Et la liberté de tous ne peut quand même pas dépendre du bon vouloir de quelques-uns. Il était souhaitable que cela devienne un droit, parce que seule la loi permet, en théorie, d'échapper aux décisions arbitraires des tyrans, aux passe-droits de quelques privilégiés qui peuvent tous acheter, aux pistons de ceux qui ont des relations ou qui sont bien nés. Finalement, la fonction de la loi consiste à protéger les plus faibles pour leur permettre d'échapper à la loi de la jungle, où les plus forts ou les plus nombreux gagnent à tous les coups. On reconnaît la bonne santé d'une démocratie à la place qui est faite dans la loi pour donner aux minorités et aux plus fragiles l'égalité de droit avec la majorité et les plus forts. C'est une manière d'être ensemble qui permet d'échapper aux égoïsmes de chacun pour garder le souci de l'intérêt général, une sorte de contrat social, disait Rousseau. Et pourtant, je me demande si la belle intention ne s'est pas un peu perdue en route. Plutôt que de tenir ensemble liberté et égalité sans les séparer, comme les deux faces d'une même pièce, on a commencé à les opposer l'une à l'autre. J'en ai envie, donc j'y ai droit. Est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre comme si la seule loi valable à nos yeux était celle de suivre nos désirs, nos envies et nos pulsions? Et du coup, c'est la fraternité qui en prend un coup.
Retrouvez le contenu de cette émission et de toutes celles de cette série consacrée à la liberté de conscience dans le spectacle Son et Lumière de Luther à Luther King qui sera donné dans le cadre du Musée du Désert à Mialet dans le Gard les 28, 29 et 30 juillet 2017. Ces textes font également l'objet d'une publication aux éditions Olivetan.